Le Mag de l'après-midi Sud Radio.
Les adultes surdoués après les enfants surdoués que nous avions évoqués il y a quelques temps. Voici donc maintenant les adultes. Les adultes, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi parfois parle-t-on de souffrance quand on est diagnostiqué adulte surdoué, alors qu'on pourrait tout de suite faire un raccourci très rapide en disant waouh, c'est une chance, on va explorer des facultés assez inhabituelles. On voit ça avec mes invités. Monique de Kermadec qui est avec nous, psychologue. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Tout à fait, je suis ravie d'être en contact avec vous cet après-midi.
C'est partagé. Jeanne Siofachin est là également, présidente d'honneur de l'association Zebra pour les adultes surdoués. Jeanne, bonjour.
Oui, bonjour Marc, ravie de vous retrouver.
Eh bien c'est parfait, tout le monde est ravi, c'est magnifique. On est ensemble pour parler donc de cette thématique. C'est assez étonnant, hein, Monique de Kermadec, de se dire qu'il peut y avoir de la souffrance quand on est diagnostiqué adulte surdoué.
Oui, tout à fait. On a tendance à croire que avoir quelques dons en plus ou quelques facultés supplémentaires pourrait rendre parfaitement heureux et surtout permettrait à la personne de réussir de façon systématique. Or, on se rend compte qu'il y a certains enfants qui vont grandir dans la souffrance et qui seront des adultes surdoués, qui auront besoin d'un accompagnement pour pouvoir tirer plein bénéfice de leurs atouts et de leurs dons.
Parce que c'est quand même, Jeanne Siofachin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'arriver comme ça. Même quand on est allé ado, qu'on est diagnostiqué surdoué, il y a une certaine, j'ai le mot qui ne vient pas, mais qui va venir dans deux petites secondes. Fierté, voilà, je cherchais le mot, Jeanne.
Oui, mais justement, c'est justement là où c'est important de faire un peu tomber les mythes, et donc merci de parler de ce sujet, parce que ce qui est très important de souligner, c'est que d'être surdoué, c'est pas seulement avoir une intelligence quantitativement supérieure, mais fonctionner avec des mécanismes intellectuels, des processus cognitifs qui sont qualitativement différents. Donc c'est ça qui fait la singularité de ces personnalités, c'est-à-dire que bien sûr, ce sont des personnes qui ont une intelligence très puissante, très intense, qui ont beaucoup de compétences intellectuelles, mais en même temps, ils utilisent des modes de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes. Et tout cela ne serait rien si ce n'était que c'était associé avec une hypersensibilité, une hyper-réactivité émotionnelle qui fait que ces adultes-là, ou ces enfants-là, ces ados-là, sont finalement des êtres profondément affectifs et qui, chez lesquels, ce qui va être une broutille chez quelqu'un d'autre va déclencher chez eux des cataclysmes émotionnels. Donc c'est ça qui ont fait peut-être des êtres plus écorchés. C'est une façon d'être au monde, d'être surdoué. C'est pas juste être plus intelligent, sinon effectivement ça serait incompréhensible que cette forme d'intelligence puisse causer une souffrance.
Évidemment. Monique de Kermadec, quand j'ai parlé tout à l'heure de Jacques Attali, de Sharon Stone, de Jodie Foster, les frères Bogdanov, Smain, vous en connaissez d'autres?
On parle très souvent d'eux-mêmes. Je crois que toute personne, en France, nous avons un grand nombre de personnes qui sont connues, qui sont soit acteurs, soit dans le domaine artistique, ou qui sont dans des domaines professionnels où leur réussite est évidente. Et leur réussite, je dirais, qui a su s'imposer au travers des années. Mais je rencontre aussi des adultes surdoués totalement anonymes, qui ne sont connus de personne, et qui, dans un parcours beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus humble, beaucoup plus caché, ont accompli des choses et des choses importantes. Il me semble important aussi de souligner qu'on n'est pas simplement surdoué parce qu'on a un quotient intellectuel élevé. On peut avoir des modes de fonctionnement dans un domaine artistique, sportif ou autre qui nous démarque très nettement des autres personnes et qui peut être à la source de grandes satisfactions, mais aussi de grandes frustrations et de souffrances.
L'hypersensibilité dont parlait Jeanne Siofachin il y a quelques instants, cette hypersensibilité, c'est peut-être pour ça qu'il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui sont diagnostiqués effectivement enfants surdoués.
Oui, tout à fait. On parle de cette hypersensibilité, je dirais, depuis les premiers mots qui ont été prononcés sur la douance, parce que ce dont se plaint l'adulte et ce dont se plaint les enfants aussi, c'est de ressentir avec une force très, je dirais, importante tout ce qui revient vers eux, que ce soit le jugement des autres, que ce soit aussi le regard qu'ils portent sur le monde. Cette sensibilité est un atout puisqu'elle permet d'être créative, mais elle peut être aussi, bien sûr, ce qui est à la source de la souffrance.
Jeanne, est-ce que aujourd'hui vous avez une majorité d'hommes ou de femmes dans votre association Zebra?
Alors, l'association association, donc effectivement Zèbre Adulte, qui est une association qui a été créée il y a quelques mois, justement pour venir en réponse et en écho à ce besoin d'être entendu et reconnu. C'est très important de, d'une façon générale, et Monique a bien raison d'insister sur le diagnostic. Un diagnostic, c'est pas un QI, c'est une démarche clinique complexe, et ça veut dire qu'il faut faire un bilan complet, et c'est très important. Et ensuite, ces adultes-là, ils ont d'abord et avant tout besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment, profondément. C'est-à-dire, dans la vie, on a tous besoin de savoir qui l'on est pour savoir où on va. Et c'est ça qui est vraiment important, et effectivement, l'association Zèbre Adulte répond à ce besoin-là, et d'ailleurs, il y a près de 200 adhérents aujourd'hui, alors que l'association a 4 mois d'existence, pour ça, parce qu'il y a ce besoin-là. Et je rajouterais, par rapport à ce que disait Monique il y a un instant, c'est que cette sensibilité est associée avec une immense lucidité, c'est-à-dire un regard acéré en permanence sur le monde. Et c'est compliqué, et ça peut être douloureux d'avoir cette lucidité aiguisée avec tous les sens en ouverture et être comme des éponges émotionnelles constamment, c'est-à-dire avec cette hyper-réactivité cérébrale qui est aujourd'hui bien validée par les neurosciences, et cette hyper-réactivité émotionnelle qui, elle aussi, est bien validée par les neurosciences actuelles qui, Monique a raison, ça fait longtemps qu'on sait tout ça, nous les cliniciennes, mais aujourd'hui, les neurosciences nous montrent en direct le cerveau fonctionner et valide ce que nous, on a pu constater dans nos cabinets avec nos patients depuis si longtemps.
Mais alors justement, Monique de Kermadec, vous dites le principe du diagnostic d'enfants ou d'adultes surdoués, ça n'est pas nécessairement qu'un QI, et pourtant, c'est le raccourci qu'on fait systématiquement. On dit, oh là là, mais vous savez, il est surdoué parce qu'il a un QI de temps.
Effectivement, en France, on a beaucoup parlé de la douance par rapport au QI. Moi, j'étais formée aussi aux États-Unis et je suis un peu à cheval sur les deux pays et je me rends compte que nous avons besoin d'élargir cette notion de douance. Mais pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, je crois que on n'a pas simplement besoin de savoir que l'on est surdoué, on a besoin de pouvoir mettre un mot sur ce qui est ressenti dès le plus jeune âge comme une différence. Une différence qui bien souvent n'est pas accueillie de manière positive par les adultes, ça peut être les enseignants, ça peut être la famille. L'enfant surdoué ou l'adulte surdoué dérange, déloge l'autre de sa zone de confort, et c'est une des raisons de cette souffrance aussi pour lui.
Et c'est vrai que, oui, vous avez raison, mais alors, moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, parce que là aussi, quand on ne se plonge pas dans ce sujet de manière approfondie, on fait des raccourcis, on parlait du QI tout à l'heure en se disant, effectivement, il est surdoué, donc il a un QI supérieur à la moyenne, et vous parliez tout à l'heure de la batterie de tests cliniques, là aussi, quand on ne sait pas, on fait un raccourci où on se dit, voilà, il va y avoir un petit QCM d'une dizaine de questions, et puis l'affaire est jouée.
Il y a des entretiens, il est absolument important lorsqu'on reçoit une personne en consultation, d'abord de l'écouter, de comprendre quel a été son parcours, sa vie, quelles ont été ses réussites, quels ont été ses échecs. Et déjà, il y a un certain diagnostic qui peut s'établir. Un test est parfois nécessaire, parfois n'est pas nécessaire.
On n'est pas obligé de faire, Jeanne Siofaché, on n'est pas obligé de faire le test proprement dit.
On est de toute façon obligé de faire un bilan clinique, ça passe par un certain nombre effectivement d'étapes, ce que Monique décrit à l'instant, c'est-à-dire bien sûr la rencontre et l'éclairage du parcours de la personne que nous rencontrons.
Mais comment vous arrivez
une visibilité par des tests sur son fonctionnement intellectuel pour pouvoir déterminer. Un test de QI, c'est pas comme prendre sa température, on n'est pas positif ou négatif. Vous voyez, dans ces raccourcis, j'entends quelquefois des personnes qui disent, je me suis fait tester, mon test était positif ou mon test c'était négatif. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'approcher au plus près de qui est cette personne-là. C'est-à-dire, effectivement, de mettre du sens sur ce qu'il éprouve, à travers également des tests ou des épreuves qui peuvent être des épreuves de personnalité, pour bien comprendre cette alchimie subtile entre ce qui constitue la singularité de cette personne-là à ce moment-là de son histoire, en fonction de sa façon de penser, sa façon de comprendre le monde, sa façon intense d'être au monde et tous les aspects de la personnalité, de la sensibilité et de l'émotivité.
C'est ça
un diagnostic. C'est ça qui est important. Et c'est ça, je suis d'accord aussi quand Monique disait la différence, parce que ce n'est pas la différence qui fait souffrir, c'est le sentiment de différence. Et ces adultes-là ressentent un énorme décalage, qui les met souvent en difficulté, en particulier dans le monde professionnel, parce que quand on va très vite, eh bien, on peut avoir du mal avec des équipes où on a besoin énormément d'admirer son supérieur et quelquefois c'est pas tout à fait ce type de relation qui est au rendez-vous, ou au contraire on a besoin d'approfondir un sujet parce que ce sont des adultes qui ont également besoin de précision absolue et à ce moment-là ils vont s'arrêter sur un détail alors que tout le monde sera passé par-dessus. Donc ça crée beaucoup de souffrance au travail, ça peut créer de la souffrance au travail quand on n'a pas la chance ou que la vie a pas permis ou qu'on s'est pas donner des moyens, enfin peu importe, mais d'avoir un métier ou un environnement professionnel qui permette de vivre et d'être ce que l'on est, hein, dans les milieux artistiques, mais aussi dans certains milieux à responsabilité, dans tous les milieux auto-entrepreneurs, d'être son propre patron, mais aussi sur un plan affectif, dans les couples. Il y a beaucoup de questions autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a une telle soif d'idéal chez les adultes surdoués, tout est absolu. Et le sens des valeurs est fondamental et constitutif de leur personnalité. Donc il y a une espèce de quête permanente chez ces adultes-là. Et c'est ça qui peut créer la souffrance.
Alors on va juste un mot avant de marquer une pause, Monique de Kermadec. Ce qui est assez incroyable, c'est juste pour terminer sur cette histoire de test, au-delà de l'aspect purement technique, c'est cette première partie qui m'intéresse sur l'entretien que vous avez, entretien préalable avant de se lancer dans la batterie de test. À quel moment, est-ce que vous arrivez juste avec un entretien, vous arrivez à tout de suite sentir si cette personne l'est ou pas surdouée?
Je crois que tout un nombre de personnes qui travaillent dans le domaine de la douance sont avant tout des psychologues praticiens ou cliniciens. Ma formation complémentaire en tant que psychanalyste donne à mon écoute lors de l'entretien quelque chose que ne m'apporterait pas ma simple formation de psychologue clinicienne. Il est évident que je préfère d'abord laisser la personne s'exprimer librement pour voir quelle est la place qu'elle s'octroie, quelle est la place qu'elle m'octroie lorsqu'elle s'adresse, quel est le ton qu'elle emploie, c'est-à-dire choisit-elle de parler d'abord de sa souffrance, de quelle façon choisit-elle de se présenter, et ça demande un regard clinique expérimenté. Et par rapport au test, je tenais à dire aussi de façon très importante que ce n'est pas le chiffre de QI total qui importe. Ce qui importe pour la personne, ça va être aussi de comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses vulnérabilités, car on peut être très surdoué dans un domaine et être tout à fait proche de la norme dans un autre. Et cette norme ne doit pas effacer ce qui distingue la personne des autres.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Les adultes surdoués avec Monique de Kermadec qui a écrit « L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué ». Ça, c'est une bonne définition. Aux éditions Albin Michel et Jeannecio Fachin, présidente d'honneur de l'association Zèbre Adulte pour les adultes donc surdoués, qui a écrit aussi « Trop intelligent pour être heureux » aux éditions Odile Jacob. Des SMS qui arrivent à l'instant, mesdames. Notamment, il y a Zeste qui nous dit « Quel est le... » Attendez voir, parce que là, il faut évidemment décrypter ce qui a été. Sur le test QI, à partir de combien est-on considéré comme surdoué, Monique ?
On parle traditionnellement en France de 130 de QI. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est important pour cette personne, c'est de savoir que s'il existe dans ses résultats une disharmonie qui ne permet pas d'avoir un QI global, c'est-à-dire un écart trop important entre des scores dans un indice et un autre, s'il y a un indice où cette personne obtient des scores qui sont aux alentours de 130 ou plus élevés, il est important que la personne qui consulte et qu'elle consulte lui explique que ce sont là des forces qu'elle doit investir et développer.
C'est-à-dire qu'en fait, même en dessous de 130, parfois, on peut être surdoué.
Vous pouvez très bien l'avoir dans une partie de votre test, des scores qui sont nettement au-dessus de 130 et d'autres qui sont tout à fait proches de 100. On ne peut pas dire à cette personne, vous n'êtes simplement pas surdoué. Je crois qu'il est important que cette personne, à cette occasion, prenne conscience du domaine dans lequel elle sort nettement du lot et qu'elle doit investir.
Jeanne Siouf, oui, Jeanne.
Vous m'entendez ?
Oui, allez-y, parfaitement.
Ah, pardon. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le sens de ces décalages, c'est-à-dire de comprendre effectivement qu'est-ce qui peut faire qu'il y a ces formes de décrochage. Et parce que c'est aussi dans ces décrochages que certains adultes peuvent trouver une difficulté et une souffrance, parce que dans un certain nombre de domaines, les choses sont plutôt fluides, rapides, faciles. Et dans d'autres, au contraire, et c'est très net chez les enfants, ces adultes rencontrent des difficultés. Et c'est ça aussi l'importance du diagnostic et l'importance de diagnostic tôt d'ailleurs et qu'on peut dans l'enfance, parce que les adultes qui sont diagnostiqués tard ou pas encore diagnostiqués, ils sont, on l'a dit, souvent sentis en décalage et ont quelquefois cru ou pensé qu'ils étaient étranges, voire fous où on leur a fait croire. Et moi, je suis très touchée par, mais vraiment très touchée par les errances diagnostiques dans laquelle peuvent être certains adultes avec ces confusions, parce que peu de psychiatres, malheureusement encore aujourd'hui, comprennent et connaissent ces profils qui vont poser des diagnostics de bipolarité, de borderline. C'est vraiment touchant parce qu'on se retrouve avec des adultes en errance, en souffrance, alors qu'ils ont besoin. Je pense que Monique a la même expérience que moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on leur explique pourquoi ils se sont sentis étranges depuis si longtemps,
ceci dit,
sensation de voile qui se déchire, de soulagement formidable.
Vous avez raison, Jeanne, mais ceci dit, la frontière, vous parliez de bipolarité avec ces excès d'humeur, ces différences de niveau dans l'humeur et le fait d'être diagnostiqué surdoué, parfois, dans le diagnostic, on se rend bien compte que la frontière est très très limite entre les deux.
Oui, mais justement, c'est notre métier, c'est effectivement là où le diagnostic différentiel est important, et c'est pour ça que c'est très important des émissions comme les vôtres ou de la communication autour de ça, parce que c'est comme pour beaucoup de tableaux cliniques, il y a forcément des secteurs de recouvrement, c'est-à-dire que par exemple si vous prenez la dépression, vous pouvez ressentir un fort sentiment de culpabilité, mais si vous n'avez pas d'autres symptômes associés, vous ne faites pas une dépression. Oui. Vous pouvez avoir effectivement des hauts et des bas, et effectivement il y a un ascenseur émotionnel qui est très impressionnant chez les adultes surdoués, qui peuvent passer par des pics de sentiments d'exaltation, de plaisir, de toute puissance, et une seconde après, le gouffre du désespoir. Mais ça n'a rien à voir avec les phases de la pathologie limite, enfin de ces pathologies, où effectivement d'abord ce sont des phases qui durent plus longtemps et qui ne ressemblent pas tout à fait à ça. Alors bien sûr qu'il y a, mais comme l'anxiété, ça peut être soit c'est une pathologie, soit non. Et ça me permet de dire quelque chose d'essentiel, être surdoué, ce n'est pas une pathologie.
Oui, on est d'accord.
Ce n'est pas une pathologie.
J'imagine.
C'est un fonctionnement singulier.
J'imagine juste un instant, Monique de Kermadec, c'est la personne qui pense être surdouée parce qu'effectivement, elle a ces espèces de montagnes russes entre des sentiments positifs et des sentiments très négatifs et qui, en fin de compte, n'est juste que bipolaire.
Monique.
Allez-y,
en effet, qu'une personne peut avoir des caractéristiques, des traits de personnalité qui correspondent profondément au profil de la douance, mais nous avons parfois des diagnostics doubles. C'est-à-dire qu'une personne peut être absolument géniale, mais néanmoins être bipolaire ou être état limite. Ou avoir. Donc il est important que la personne qui reçoit un adulte en souffrance, puisse comprendre au-delà de, je dirais, de ce qui serait la psychopathologie classique, qu'il ait les clés de la douance, mais qu'il n'oublie jamais que cette personne peut aussi être porteur avoir mérité un double diagnostic. Et ça, c'est un sujet sur lequel je viens de faire une recherche là récemment. Je trouve que à trop craindre de mettre les adultes surdoués dans certaines catégories qui seraient vraiment des pathologies, on peut parfois passer à côté et ne pas permettre à quelqu'un à la fois de profiter de sa douance et d'être traité pour la pathologie qui est la sienne.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
D'un sujet à l'autre avec mes invités, les adultes surdoués, les enfants aussi, parce que je suppose que le diagnostic doit se faire de la même manière, à moins que je ne m'avance. On va voir ça. Tiens, voilà la question que je vais poser à Monique de Kermadec qui est avec nous. Elle a écrit, entre autres, l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, c'est aux éditions Albin Michel. Autre ouvrage trop intelligente pour être heureux, c'est aux éditions Odile Jacob. C'est l'ouvrage de Jeanne-Sio Fachin qui est avec nous et qui préside également l'association Zèbre Adulte pour les adultes surdoués. Je disais il y a deux petites secondes, Monique, avant de parler du témoignage de Mireille, le diagnostic se fait de la même manière quand on a un enfant et un adulte ?
Il y a des tests effectivement destinés aux enfants, mais notre objectif est différent, puisqu'un enfant est dans une période de construction, et bien souvent les parents nous consultent par rapport à une difficulté scolaire ou par rapport à une difficulté relationnelle avec d'autres camarades. Donc nous sommes amenés à intervenir et à donner des conseils de façon totalement différente, puisque si un enfant par exemple présente une dysharmonie, comme nous l'évoquions tout à l'heure, nous allons proposer une rééducation, nous allons proposer des interventions qui permettront d'amoindrir cette dysharmonie, donc de donner plus de confort à l'enfant dans son fonctionnement. L'adulte, lui, n'est plus en construction construction, il est à la recherche de lui-même, il est à la recherche d'actualiser tous ses atouts, tous ses talents, donc nous ne sommes pas amenés à intervenir de la même manière.
Ce qui veut dire, Jeanne Siofachin, ce qui veut dire que le diagnostic, dès l'instant où, vous vous rendez compte, la quantité de gens qui s'ignorent peut-être surdoués.
Oui, bien sûr, mais en même temps, il ne s'agit pas de faire une espèce de dépistage systématique. Je pense que c'est important c'est toujours important d'être dans la prévention plutôt que dans l'intervention, bien sûr, parce que pour tous les enfants, ça permet d'accompagner au plus près l'enfant dans son parcours. Et, oui. et comme on le soulignait à l'instant, c'est vrai que l'enfant est en plein développement et que souvent, il y a une réelle nécessité de comprendre cet enfant-là et quelles sont ses difficultés. Mais en réalité, les points d'entrée et les points d'appel, c'est comme pour toute cette panoplie d'enfants qu'on peut rencontrer en consultation. Les parents, ils ne viennent pas chercher un diagnostic de surdoué pour la gloriole. Ça, c'est encore un mythe énorme. Je pense que, justement, il y a suffisamment aujourd'hui de communication et d'ouvrages sur ces sujets-là, de sensibilisation auprès des enseignants. Hein. Moi, je fais énormément d'interventions dans les écoles et auprès des équipes pédagogiques, de formation d'équipes pédagogiques. Les enseignants sont sensibilisés, pas tous, c'est vrai, bien sûr, mais les parents, quand ils consultent, c'est qu'il y a quelque chose qui vient entraver le parcours de leur enfant, qu'ils sont inquiets, qu'ils ont besoin qu'on les aide, et qu'ils ont besoin qu'on les aide à comprendre et qu'on aide leur enfant à avancer.
Mais le sentiment de fierté existe ou pas?
Ils viennent pas chercher une étiquette, un diagnostic ou un fanion.
Mais le sentiment de fierté existe?
Mais je ne crois pas tant que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est formidable d'avoir un certain nombre de possibilités et c'est rassurant de se dire qu'on a cet atout-là. Mais je pense que les parents ont bien conscience que ça peut aussi créer des difficultés parce que ça crée aussi, comme on l'a déjà dit, une différence, un décalage et que l'école est quand même pas très équipée pour accueillir ces enfants qui s'accommodent mal du formatage nécessaire, qui s'ennuient beaucoup en classe, qui ont des difficultés à y éprouver de la stimulation intellectuelle et souvent la difficulté est au coin du chemin. Alors il ne faut pas être totalement sombre, il y a des enfants surdoués, des adultes surdoués qui vont très bien, qui réussissent, mais moi je dirais que le point central, c'est qu'en fait c'est quelque chose d'une banalité énorme, c'est que plus l'enfant aura acquis une confiance en lui solide et une confiance dans sa propre valeur et dans ce qu'il est vraiment, plus il aura grandi dans un environnement affectif stable, plus grandes seront ses possibilités de pouvoir exprimer pleinement qui il est. Et ça, c'est vrai pour tous les enfants, mais c'est toujours pareil avec ces enfants et ces adultes-là. Ce qui est vrai pour les autres, pour eux, c'est incontournable, c'est non négociable. Et qu'en revanche, la moindre fragilité autour de l'estime de soi va très vite constituer une pierre qui peut être une embûche sérieuse.
Alors, Monique de Kermadec, témoignage de Mireille à l'instant, enfin, elle dit « J'ai été diagnostiquée effectivement surdouée et j'ai dû m'y faire ». Au travail ou dans mes études, lorsque mon intellect est le bienvenu, eh bien tout cela risque de jouer des tours. Dans les autres cas, en famille, entre amis et dans tout ce qui est informel, je suis une idiote qui ne comprend rien, faute de quoi, si je laisse libre cours à ma spontanéité, ma personnalité est perçue négativement, soit on pense que je suis stressé, soit on me dit que je prends trop de place, soit je suis impoli ou dominatrice. On sent bien la difficulté et la souffrance dans ces deux cas.
C'est une grande souffrance, là. Et j'ai le sentiment qu'il serait important qu'elle puisse d'abord mieux comprendre ce que peut être pour elle la douance, qu'elle puisse aussi parler avec quelqu'un qui puisse la rassurer et lui permettre de ne pas chercher à se transformer ou de ne pas se réfugier sur une île déserte pour trouver sa solution.
Vous pensez que lorsque le verdict tombe, le fait que l'on vous dise « voilà, vous êtes surdoué », vous avez le sentiment que l'attitude, le comportement de la personne en question qui reçoit ce diagnostic change?
Alors, d'abord, je ne sais pas si on doit dire à quelqu'un « vous êtes surdoué ». Ça m'apparaît, une façon de le formuler très violente. Je crois que quand la personne vient, elle a besoin d'entendre d'abord quels sont tous ses atouts et comment nous arrivons à cette conclusion. Le fait même de dire « vous êtes surdoué » m'apparaît, quasiment aberrant. Ça devient une évidence lorsque, en discutant avec la personne, elle peut comprendre quelles sont ses forces, quels sont ses atouts.
Oui, mais quand elle vous dit « qu'est-ce que j'ai ?», vous allez lui répondre quoi?
Non, alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment important de clarifier un diagnostic. Oui, évidemment, il ne s'agit pas de dire « vous êtes surdoué » comme on pourrait dire « vous êtes dépressif ».
Attendez, pas en même temps. Pas en même temps, pardonnez-moi.
J'avais entendu que Monique parlait.
Non, pas en même temps. Juste alors, dites-nous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Jeanne
Sion? Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est absolument une clé très importante pour l'évolution de la personne, d'avoir une claire connaissance de ce diagnostic. Il ne s'agit pas, évidemment, de lui dire de façon violente ou directe « vous êtes surdoué », comme on dirait « vous êtes dépressif » ou « vous avez un cancer ». Mais il s'agit effectivement d'avoir une clarification de ce diagnostic. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, enfin, de mettre du sens sur le vécu, enfin de mettre du sens sur certaines difficultés dans le parcours, sur certaines difficultés relationnelles, sur certaines difficultés actuelles. On a besoin d'avoir ce sens-là et cet éclairage-là, c'est vraiment comprendre qui on
est pour avancer,
pour tracer son chemin. Voilà,
Monique,
pour avancer.
Monique de Kermadec.
C'est important de dire quelque chose là, parce que je trouve que c'est détourner ce que j'ai voulu dire.
Allez-y.
Je pense que l'on ne peut pas dire comme ça systématiquement, une fois le test passé, vous êtes surdoué. Il faut d'abord analyser les résultats du test avec la personne. Il faut reprendre les éléments. Bien évidemment, la question de la douance, être surdoué, va être posée et elle doit avoir une réponse. Il n'est pas question de ne pas dire à la personne qu'elle est surdouée ou qu'elle a des atouts qui dépassent.
Mais
de
comment
loin
vous amenez, comment vous amenez les choses pour lui faire comprendre et lui dire ça? Si vous ne dites pas de but en blanc comme ça, bon, écoutez, voilà, le diagnostic, s'il est clair, vous êtes diagnostiqué surdoué. Qu'est-ce que vous dites?
Le diagnostic arrive, c'est-à-dire qu'il arrive dans la suite logique qui permet à la personne de comprendre quels sont ses atouts.
D'accord.
Et pourquoi elle est surdouée. Et bien évidemment, si c'est annoncé d'une manière très brusque, la personne ne saura que faire de ce diagnostic. Il faut que pour elle, elle ait l'occasion de s'approprier cette nouvelle identité.
D'accord.
Et c'est à nous de le faire lors de la consultation et des résultats de test. Mais jamais, jamais, je n'ai dit, et je le maintiens, bien évidemment, on doit dire à une personne qu'elle est surdouée.
Très bien.
On est bien d'accord.
Marc Leval.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio. Allez, dernière partie avec Monique de Kermadec. L'adulte surdoué apprendre à faire simple quand on est compliqué aux éditions Albin Michel. Jeanne Sion Fachin également, qui a écrit « Trop intelligente pour être heureux » aux éditions Odile Jacob. Des affirmations, des idées reçues, des idées reçues en tout cas sur cette thématique des enfants, peut-être même des adultes. Surdoués, j'en ai 10 au total. Vous allez me dire ce que vous en pensez, chacune un élément de réponse. Alors, allez, on y va. Commençons par Monique de Kermadec. On dit d'un adulte surdoué qu'il sait et faire 10 choses à la fois, vrai ou faux ?
Tout à fait. Les adultes surdoués s'engagent très souvent dans plusieurs activités en même temps et sont tout à fait capables de les mener à leur terme.
C'est ce qui fait la différence avec les autres.
Tout à fait. La différence avec, par exemple, quelqu'un en état maniaque qui se lance dans des tas d'activités mais n'aboutit pas.
Jeanne Sion Fachin, on dit d'un adulte surdoué qu'il est convaincu toujours d'avoir raison et de faire mieux que les autres.
Oui, enfin, je dirais pas ça tout à fait comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement et que c'est vrai qu'il y a une telle envie de pouvoir convaincre les autres, de pouvoir expliciter ses idées, de pouvoir aller jusqu'au bout d'un raisonnement, que ça peut donner cette sensation-là aux autres, mais ce n'est pas vécu comme ça par l'adulte surdoué.
Oui, ce qui peut être agaçant pour les autres aussi. Hein. C'est peut-être pour ça
oui,
qu'il
c'est
y a...
vrai. Hein, c'est vrai.
Au bout d'un moment. Troisième idée reçue, Monique de Kermadec, un adulte diagnostiqué surdoué n'anticipe pas les réactions des autres.
Très souvent, il est vrai qu'ils ont souvent envie d'aller parler, par exemple, tout de suite à de la famille, à des amis, très spontanément dire « je suis allée me faire tester, voilà mes résultats », et ils sont parfois déçus, car ils pensent que les autres se réjouiront avec eux, et ils peuvent découvrir une certaine agressivité ou une indifférence qui les déçoit profondément.
Jeanne, un adulte surdoué produit 10 idées à la minute, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de faire 10 choses à la fois.
Arborescence, c'est-à-dire une pensée qui se déploie à très grande vitesse, dans de multiples directions simultanément. Donc tout ça va très vite. En plus, tout ça est supporté par une activité cérébrale intense. Mmh. Donc oui, c'est vrai. Et ça crée d'ailleurs à la fois quelque chose de l'ordre de la créativité, du génie, parce que c'est la pensée divergente, c'est le Eureka d'Archimède. Mais ça crée aussi beaucoup de doutes parce que chaque nouvelle question entraîne le plus souvent une nouvelle question, une nouvelle hypothèse et rarement une certitude.
Mmh. Monique de Kermadec, un adulte surdoué est souvent très impatient.
Oui, il paraît impatient parce qu'il a le désir, un désir intense d'accomplir. Il a des idées qui viennent très vite, sa pensée est rapide, ses conclusions viennent certainement beaucoup plus vite que pour d'autres lors d'une réunion, par exemple, et ils donnent aux autres le sentiment d'être impatients. Dans les faits, ce n'est pas une impatience telle que nous l'entendons dans le monde quotidien, c'est plutôt une capacité à penser, à agir, à gérer rapidement.
Jeanne Siofachin, il est dépendant affectivement.
Oh là là, oui. Oui, oui, parce que justement, l'affectivité, l'émotivité est vraiment au cœur du fonctionnement de ces personnalités-là. Et donc, ce sont des personnes qui ont une dépendance affective, y compris dans leur pensée. C'est-à-dire que l'affectif est toujours présent. Ce sont des adultes qui peuvent avoir très vite les larmes aux yeux. Oui. Justement, même dans le monde du travail, c'est pas si simple. Ils sont touchés partout. Ce sont un peu des écorchés vifs. Donc, du même coup, ils ont une espèce de besoin immense de se sentir aimés, reconnus, approuvés, et ils ont besoin, eux, d'aimer de façon intense et de s'engager affectivement de façon intense.
C'est ça l'hypersensibilité dont on parlait tout à l'heure. Hein. Oui. Monique de Kermadec, un adulte surdoué ne sait pas rester seul.
Alors là, il s'agit bien effectivement du besoin intense que ressentent les adultes surdoués d'avoir de réelles amitiés, d'avoir des relations profondes et satisfaisantes. Je ne dirais pas qu'il ne peut pas rester seul, car parfois la solitude lui est nécessaire et lui est bénéfique. Mais il recherche effectivement le lien avec l'autre, et dès la petite enfance peut être déçu, ne pas retrouver chez l'autre la même intensité, la même capacité à s'investir.
Jeanne Siofachin, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a l'angoisse de l'ennui? C'est peut-être une de ses premières angoisses?
Je ne sais pas si c'est une angoisse, mais c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui ont effectivement considérablement besoin d'intensité, de stimulation et d'avoir comme ça une espèce de forme de production d'adrénaline constante. D'ailleurs, on constate beaucoup de procrastination chez ces adultes-là, qui vont souvent attendre le dernier moment pour accomplir une tâche importante, et qui est probablement ce besoin d'être hyper stimulé pour pouvoir agir et pour pouvoir agir efficacement. Quand il y a un trop grand délai, et vous le disiez tout à l'heure dans les idées reçues, qu'il faut beaucoup anticiper et planifier, c'est vraiment pas leur truc. Donc l'ennui peut les gagner d'une sous-stimulation.
Bon, et la dernière, alors que j'ai trouvé assez étonnante, mais bon, Monique, on dit d'un adulte surdoué qu'il veut toujours sauver le monde.
Ah, c'est vrai. L'adulte surdoué a besoin profond de donner sens à sa vie, de se sentir utile, de pouvoir apporter quelque chose au monde dans lequel il vit, et c'est un thème récurrent en consultation chez des adultes, et qui peuvent d'ailleurs, aux yeux du monde entier, avoir parfaitement réussi. Eux ont le sentiment qu'ils sont passés à côté de leur vie s'ils n'ont pas accompli quelque chose qui a une valeur à leurs yeux, s'ils n'ont pas contribué à ce monde dans lequel ils vivent.
Ça veut dire que ce sont des perpétuels insatisfaits.
Personnellement insatisfait, mais en tous les cas des personnes qui sont exigeantes et qui ont un sens profond des valeurs et qui veulent améliorer le monde dans lequel ils vivent.
En tout cas, merci.
Aider l'humanité à mieux vivre.
Exactement. Merci infiniment, mesdames. J'espère qu'on a apporté quelques éléments de réponse à cette thématique sur les adultes surdoués. Monique de Kermadec, merci beaucoup. L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, c'est aux éditions Albin Michel. Jeanne Siofachin également, présidente d'honneur de cette association Zèbre Adulte, pour ces adultes surdoués. Trop intelligent pour être heureux, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, mesdames. Au plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Merci.